contrôle d'expression. Parce que la fidélité, le plus souvent, n'a rien à voir avec l'exclusivité. Être fidèle en amitié, ça n'est pas, que je sache, n'avoir qu'un seul ami. Être fidèle à ses idées, ça n'est pas, que je sache, et fort heureusement, n'avoir qu'une seule idée. Pourquoi voudriez-vous qu'être fidèle en amour, ça soit forcément n'avoir qu'un seul amour? Rien n'empêche d'être fidèle en amour à plusieurs personnes à la fois. Alors, si vous en avez 28 à la fois, je ne suis pas sûr qu'on donne au mot amour le même sens. Mais si vous en avez 2 ou 3, moi j'ai bien 2 ou 3 meilleurs amis. Alors je ne couche pas avec pour les raisons que je vais expliquer. D'abord c'est des hommes, ça me tente peu, mais surtout, moi je suis possessif. Je ne suis pas un partageux. Et donc la moindre des choses, c'est de s'imposer à soi-même l'exclusivité qu'on attend de l'autre, évidemment. Mais c'est une question de goût, c'est pas une question de philosophie ou de morale. Par exemple, j'ai très bien connu Dominique de Santique, qui est une vieille dame délicieuse quand je l'ai connue. Je vais vous raconter l'histoire d'amour de Dominique de Santique. Je peux en parler sans indiscrétion, non pas parce que Dominique est morte, même si en effet elle est morte, mais parce qu'on a même parlé publiquement dans un livre. Donc Dominique de Santique tombe amoureuse d'un homme que j'ai bien connu, qui était mon prof, enfin l'un de mes profs de philo, la Sorbonne, Jean Toussaint de Santique, très brillant philosophe, grand résistant, écorce. Et puis, donc, ils sont connus à Normale-Sup pendant la guerre, ils se marient, ils adhèrent ensemble au Parti communiste, font la résistance et tout. Et puis, quelques années après la fin de la guerre, patatras, Dominique de Santique, donc la femme, tombe amoureuse d'un autre homme. Comme c'est une femme honnête, elle va voir son mari et dit à Touki, comme elle appelait Jean Toussaint, elle dit « Écoute, Touki, je suis embêtée, je suis tombée amoureuse d'un autre homme. » Jean Toussaint de Santil lui dit « Dis-moi qui c'est, je vais aller le voir. » Dominique dit « Tu sais, il est corse, il a toujours une arme chez lui, il me dit, il va le tuer. » Malgré tout, elle lui dit « Qui c'est ?» Jean Toussaint de Santil va donc voir son rival et lui dit exactement ceci, je le tiens de la bouche même de Dominique de Santil. Il lui dit ceci, écoutez, d'après ce que je comprends, nous aimons la même femme. Je vous propose que nous essayions de la rendre heureuse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il se trouve que Touki et l'amant, que lui je n'ai pas connu, sont devenus, au fil des années, les meilleurs amis du monde. Et donc, c'était une espèce de ménage à trois, et Dominique était fidèle à ces deux hommes. Non, après, Jean Toussaint est tombé amoureux d'une autre femme. Là, c'était moins bien passé parce que l'autre femme, que j'ai bien connue aussi, mais là, je vais taire son nom, ne voulait pas du tout rencontrer Dominique de Santilly. Elle ne voulait pas rentrer dans cette histoire-là. Mais voilà, Dominique de Santilly a été fidèle à deux hommes. Toute sa vie, en plus, pour la petite histoire, ces deux hommes sont morts, non pas le même jour, mais à la même date. Donc, ils sont morts tous les deux un 24 février, pas la même année, mais vous voyez, à la même date. Si bien qu'il y avait un jour, tous les ans, parce que Dominique de Santilly a vécu d'assez nombreuses années plus longtemps que ces deux hommes, il y avait un jour dans l'année où Dominique célébrait pieusement la mémoire de ses deux amours. Quand Dominique m'a raconté ça, sincèrement, j'étais plutôt admiratif qu'autre chose. Je trouvais que c'est une très belle histoire, quelle belle fidélité, quelle intelligence, quelle humanité. Il se trouve que moi, je suis absolument incapable de vivre ça. Je ne pourrais pas que ma compagne couche avec un autre homme. Pour des raisons, vous savez, de susceptibilité de mec, enfin, des conneries. Pour ce qui est de l'amour, je trouve que l'amour dont Dominique, Jean Toussaint de Santilly et le troisième homme que je n'ai pas connu ont fait preuve est au moins aussi estimable que celui que j'essaye moi de vivre quotidiennement. Donc voilà, vous voyez, le polyamour, conceptuellement, je ne suis pas contre, je trouvais même l'idée est légitimement séduisante, si vous voulez. En pratique, moi, j'en suis incapable, mais ça ne vaut que pour moi. Je ne voudrais en dégoûter personne. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, là-bas, madame.
J'aurais vous demandé quelle est votre position, si vous avez une position par rapport à l'amour platonique. Est-ce qu'on peut le rapprocher de la philia, c'est-à-dire de l'amitié. Et pour vous, est-ce que c'est possible? Comment justement, votre position en tant qu'homme sexué, etc., quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'un couple peut fonctionner comme ça?
D'abord, expliquons pourquoi on parle d'amour platonique. Vous avez bien compris que c'est une espèce de contresens. L'amour platonique, ce n'est pas l'amour platonicien. Parce que l'amour platonique, au sens où on prend l'expression dans le langage courant, c'est un amour sans sexe. Et Platon ne vous demande aucunement d'être amoureux sans sexe. C'est en partie un contresens sur Platon, mais ce n'est un contresens que partiel. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais j'en parle longuement dans mon livre « Le sexe ni la mort ». Parce qu'en vérité, dans le banquet, Platon évoque ce qu'on appelle la dialectique ascendante du banquet. C'est qu'il va se servir de l'amour pour nous élever de degré en degré vers des amours de plus en plus élevés. Là encore, il est de bonne pédagogie de commencer par le plus facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus facile à aimer? Platon répond, et ça c'est très grec, qu'est-ce qu'il y a de plus facile à aimer? Platon répond, un beau corps. Aucun peuple peut-être n'a aimé la beauté, vraiment la beauté du corps humain comme les Grecs. Allez dans les musées, voyez leur statuaire, c'est la plus belle statuaire de tous les temps. Ils gueulent, 23 siècles plus tard, au 19e siècle, écrit à propos des statues grecques, rien de plus beau ne s'est jamais vu, ni ne se verra jamais. Voilà, donc quand on est grec, qu'est-ce qu'il y a de plus facile à aimer? Un beau corps. Très bien, dit Platon, mais ce que tu aimes dans le beau corps, c'est pas le corps, c'est la beauté du corps. Et donc, deuxième degré, aimer tous les beaux corps. Alors, peut-être ne voyez pas bien la progression. Elle est pourtant considérable. C'est que aimer un beau corps, en gros, c'est l'amour physiologique du beauf en manque. Qui se dit, oh, celle-là, elle est bonne maintenant. Aimer tous les beaux corps, c'est l'homme raffiné qui se dit, bon Dieu, ce que les femmes sont belles. Pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Mais bon, il y a bien sûr plus beau que la beauté des corps. C'est quoi? Ben, c'est la beauté des âmes. L'amour de la beauté psychologique. Et puis, encore plus beau qu'une belle âme, c'est l'amour de la beauté morale et politique. L'amour de la beauté qui est dans les actions et dans les lois, dit Platon. Ça aussi, c'est très grec. Ça nous plonge dans un avis de nostalgie. Imaginez qu'il y a un peuple pour qui une belle loi, c'était encore plus beau que les beaux corps ou les belles âmes. Mais il y a encore plus beau que la beauté morale et politique, c'est aimer la beauté du vrai. La splendeur de la vérité, splendor veritatis, comme dit une encyclique de Jean-Paul II, ou de Benoît XVI. La beauté du vrai, la beauté des sciences. Un matheux dira une belle démonstration. Une belle théorie. Et puis, il y a encore plus beau que la beauté du vrai, la beauté des sciences, aimer le beau en soi. Le beau absolu, qui n'est plus la beauté de ceci ou de cela, qui est la beauté en elle-même. Et bien, ce beau en soi, ce beau absolu, les chrétiens diront, ben voilà, en gros, c'est Dieu. Et voyez, on va se servir de l'énergie amoureuse, si l'on peut dire, de l'énergie érotique, au sens de Platon, pour monter de degré en degré, du plus facile, aimer un beau corps, au plus élevé, aimer le beau en soi. Cette dialectique ascendante, là, aimer un beau corps, c'est pas mal, donc il n'y a chez Platon aucune condamnation de la sexualité, enfin, chez le jeune Platon, quand il est plus vieux dans les lois, c'est un peu différent. Dans le banquet, il n'y a aucune condamnation du sexe. Mais évidemment, le sexe, c'est pas mal, mais il y a mieux que le sexe. Et plus vous élevez de degré en degré, moins la sexualité devient importante. Elle n'est pas condamnée, mais elle devient moins importante parce que vous êtes monté vers les degrés supérieurs. Ça, c'est pour expliquer donc le contresens partiel qu'il y a à parler d'amour platonique. Si maintenant vous me demandez ce que j'en pense, encore, je ne suis pas contre, je trouve quand même que c'est dommage de passer à côté de la sexualité. C'est quand même ce qu'on aura vécu de plus fort, sauf l'amour de nos enfants. Mais c'est quand même moins angoissant, c'est moins de douleur. Un échec érotique, c'est quand même moins grave que perdre un gosse, sinon la chose. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a vécu de meilleur que ça? Donc je ne suis bien sûr pas contre, mais je ne vois pas pourquoi. Et en plus, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, c'est tellement meilleur que faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est tellement meilleur qu'aimer quelqu'un avec qui on ne fait pas l'amour. Pourquoi faudrait-il s'en priver? C'est dommage. Mais bon, encore, faites comme vous voulez, vous voyez, mais moi, je trouve ça dommage. Alors, cela dit, je l'ai vécu, l'amour platonique. Ah oui, avec tous mes amis hommes, y compris ceux que j'aimais ou que j'aime passionnément, j'avais pas de désir sexuel. Alors, on peut dire amour platonique, oui, mais en vérité, on ne parle d'amour platonique que dans un cadre où, justement, il devrait y avoir du désir sexuel. Entre un homme et une femme, l'un et l'autre hétérosexuel, ou entre deux hommes ou deux femmes homosexuels. Et dès lors que le désir paraît normal dans cette situation, moi je vois pas pour ce qu'on gagne à se priver de le satisfaire. Et surtout pas dans un couple, parce que je crois que dans une vie de couple sur des années, la très longue intimité des corps, l'espèce de gratitude que chacun ressent pour le plaisir, les plaisirs innombrables que l'autre lui a offert, ça fait partie du plaisir de la vie à deux. Et puis ce trouble délicieux. Est-ce qu'il y a de spécifique à la sexualité? Je disais, c'est pas le plus intéressant, c'est vrai, mais c'est le plus troublant. Parce que c'est le plus animal. Qu'est-ce qu'il y a de... Alors vous direz, mais manger, boire aussi, c'est animal, mais c'est très différent. Parce que quand vous mangez à table, vous pouvez très bien parler philosophie, politique, littérature, t'as vu le dernier film de machin, bon. Essayez de parler philosophie, politique ou littérature pendant que vous faites l'amour, vous m'en direz des nouvelles. Autrement dit, bien sûr, manger aussi, c'est une culture animale, mais quand on mange, l'homme ou la femme que nous sommes n'a aucun mal à contrôler l'animal que nous sommes aussi. Quand on fait l'amour, c'est l'inverse. C'est la bête en nous qui prend le dessus. Et ça n'en est que meilleur. Ma bête. C'est un mot d'amour. Dans certains contextes, ça peut être un mot d'amour. Et j'ai trouvé ça délicieux. Et c'est pour ça qu'il y a cette tension entre la morale et la sexualité. Les 68 ans croyaient un peu sottement que c'était à cause de la méchante morale judéo-chrétienne qui veut absolument nous empêcher de toucher aux zizi. Mais non, c'est pas la question. D'ailleurs, les Grecs étaient un peu moins pudibonds que les chrétiens, mais considéraient le sexe comme un truc un peu étrange, un peu inquiétant. Parce que c'est foncièrement amoral. Parce que c'est foncièrement animal. Au fond, qu'est-ce que la morale exige de nous? Kant répond que nous respections toujours la dignité de l'autre, que nous le traitions toujours comme une fin, comme un but, jamais comme un moyen, toujours comme une personne, jamais comme un objet. Et moralement, il a raison, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire. Sauf que sexuellement, traiter l'autre comme un objet de plaisir, ou se donner à l'autre, s'offrir à l'autre comme un objet, non pas lui manifester du respect, mais lui manifester de l'irrespect. Profaner en quelque chose sa dignité. Le traiter non pas comme une fin, mais comme un moyen. C'est sans doute pas moral, mais sexuellement, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est troublant? Qu'est-ce que c'est tentant? Alors bien sûr, ça n'autorise pas tout. Il faut se contrôler soi-même, vous voyez, mais perdre ce trouble-là, perdre ce rapport ambigu avec sa propre animalité, avec l'animalité de l'autre. Et puis perdre même les plaisirs les plus grands, parce que c'est quand même les plaisirs les plus vifs que nous aurons jamais vécu, là, pour l'orgasme. Sincèrement, philosophiquement, ça ne me gêne pas, mais humainement, je trouverais ça dommage. Une dernière question, peut-être? Oui, ben voilà. Mademoiselle.
Oui, bonjour à tous. Alors par rapport à la question de la fidélité dont on parlait tout à l'heure, dans les différents stades d'amour, on peut dire peut-être que dans l'amour possessif, on va vouloir que l'autre nous soit fidèle. Je parle dans l'amour entre un homme et une femme, pas entre amis, bien sûr. Il y a qu'il peut y avoir des possessivités chez les amis aussi. Mais bon, on considère qu'on doit l'exclusivité à son conjoint. Et donc, vous parliez d'un cas où on pouvait exprimer la puissance en ayant plusieurs partenaires. Et si on se réfère, par exemple, aux 10 commandements, qui est, bon, paraît-il, donc les commandements de Dieu, donc qui se rapprocheraient de l'amour agapé. Il y a 2 commandements, dont un qui nous dit que donc tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin ou de ton prochain, je ne sais plus, enfin. Et un autre qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Donc voilà, j'aurais voulu savoir en fait quel est votre avis sur la question. Voilà, quel est le sens de ces commandements et pourquoi est-ce qu'ils se rapprocheraient pour vous de l'amour agapé?
Non, je pense pas. Je pense que le sens de ces commandements, c'est qu'ils reflètent, comme d'autres commandements d'ailleurs, une certaine civilisation, une certaine époque. Et le machisme que j'évoquais en commençant. Pourquoi on dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et pas l'homme de ton prochain? Parce que c'est écrit par les hommes, pour les hommes, évidemment. Autrement dit, touchez pas à ma femme. C'est ça que ça veut dire. Et donc, bah oui, vous avez le choix entre la Bible et contre mon livre. Malgré tout le respect que j'ai pour la Bible, c'est que je me définis comme athée fidèle, mais j'ai le droit de penser que malgré tout c'est moi qui ai raison. Autrement dit, Dominique de Senty, la belle histoire de Dominique de Senty que je racontais, n'a pas respecté les commandements bibliques. Inutile de vous dire qu'elle s'en foutait, mais alors, radicalement. Voilà, donc si votre problème c'est de respecter la Bible, mariez-vous et soyez fidèle au sein d'une fidélité exclusive. Et encore une fois, je n'ai rien contre, en plus c'est ce que je pratique moi-même. Sauf que moi, je ne pratique pas en pensant que c'est un commandement divin, je le pratique parce que je pense que c'est plus facile d'être heureux dans un couple exclusif que dans un couple, que dans des relations polyamoureuses. Mais c'est de l'ordre de la facilité, c'est pas de l'ordre de la morale. T'sais. Voilà, mais vous avez bien sûr raison de rappeler que la Bible dit le contraire sur ce point-là. Mais, voilà, sincèrement, quand vous convoitez, c'est-à-dire quand vous désirez la femme de votre prochain, vous dites, oh là là, je suis un salaud, c'est un péché. Moi, je ne le vis pas comme ça. Et donc, il faut voir dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, moi, pour des raisons à la fois de culture, d'éducation, mais aussi de philosophie, je me sens plus proche, pour tout vous dire, du Nouveau Testament que de l'Ancien. Alors, si on pense à la femme adultère, c'est la réponse du Christ, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui, voilà. Alors, est-ce que c'est un péché? Moi, ce qui me gêne dans l'adultère, c'est le mensonge. Mais quand Dominique de Senty tombe amoureuse d'un autre homme, et va voir son mari pour lui dire « je suis amoureuse d'un autre homme, je vais coucher avec ou j'ai couché avec », moi, je veux pas, moralement, j'ai rien à redire à ça. Simplement, je pense, oh là là, ça va être compliqué à vivre. Les dynamiques, mais vraiment, je t'admire d'avoir pu vivre un truc comme ça. Moi, je ne serais pas capable. Ouais, c'est pas une question de morale. Mais bien sûr, la Bible dit autre chose. Alors, ça dit, moi, ce qui m'importe dans la tradition judéo-chrétienne, c'est certainement pas de ne pas convoiter la femme de mon prochain ou de ne pas commettre l'adultère. C'est plutôt « aimez-vous les uns les autres ». Disons la chose clairement. C'est ce que Spinoza, qui n'était pas plus chrétien que moi, qui était peut-être même aussi athée que moi, du moins on peut en discuter, mais Spinoza, qui était en bien chrétien, c'est ce qu'il appelait l'esprit du Christ. Il se voulait fidèle à l'esprit du Christ, qui est de justice et de charité. Ça me paraît pour moi l'essentiel de la tradition judéo-chrétienne, mais judéo-chrétienne, parce que Jésus était d'abord un juif pieux, d'évidence. Jésus n'était pas chrétien, hein, il était juif. Mais simplement, cet accent mis sur l'amour, donc sur agapé, pour reprendre les catégories, me paraît plus précieux que l'accent mis sur la loi dans l'Ancien Testament. Sauf que ça ne vaut que quand on est capable d'agir par amour. Vous savez, Spinoza écrit dans son traité théologico-politique à propos du Christ, il écrit « Le Christ libéra ses disciples de la loi, libéra ses disciples de la loi, et pourtant l'inscrivit à jamais au fond du cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, Jésus vous dit « Mais fais ce que tu veux, il n'y a pas de loi. Aime et fais ce que tu veux. » La formule est de saint Augustin, et elle résume, à mon avis, génialement l'esprit de l'évangile. Aime et fais ce que tu veux. Oui, d'abord, quand tu es capable d'agir par amour. Quand tu n'es pas capable d'agir par amour, il te reste à faire ce que tu dois. Autrement dit, on est libéré de la loi que par l'amour. Et donc, tant que l'amour fait défaut, c'est-à-dire en pratique presque toujours, parce que nous ne racontons pas d'histoire, à part nos enfants, notre conjoint dans le meilleur des cas et nos parents parfois, il n'y a pas d'amour. Il y a combien de gens que vous aimez assez pour être libéré vis-à-vis d'eux de toute exigence proprement morale, de tout devoir? Il y a vos enfants. Seulement vos parents peut-être, votre conjoint peut-être, vos deux, trois meilleurs amis. Il en reste un peu plus de 7 milliards que vous n'aimez pas, que nous n'aimons pas, et vis-à-vis desquels nous n'avons que la morale pour nous interdire le pire et pour nous pousser parfois à leur faire un peu de bien. Voilà, donc moi je résume en disant, tant que tu n'es pas capable d'agir par amour, il te reste à faire ton devoir. Tant que tu n'es pas capable de dire par amour, il te reste à respecter la loi. Tant que tu n'es pas capable de vivre en chrétien, il te reste à vivre en juif. Tant que tu n'es pas capable de vivre à hauteur du Nouveau Testament, il te reste à vivre à hauteur de l'Ancien. Sauf que ma fidélité, elle est critique. J'ai moi aussi un droit d'inventaire. Et donc j'ai le droit de considérer que dans les 10 commandements du Décalogue, ils ne sont pas tous aussi importants. Je pense en effet que la fidélité exclusive, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et la condamnation de l'adultère, ça reflète une certaine société. D'évidence, ce n'est pas ça qui occupe nos jeunes gens aujourd'hui, je dirais, y compris les plus moraux de nos jeunes gens. Sauf, encore une fois, si l'adultère, c'est le mensonge. Ceux ici qui trompent leur femme ou leur mari en cachette, ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas, mais... Oui, moralement, ça me gêne. Je ne crois pas que le mensonge soit compatible avec l'amour, en vérité. Enfin, du moins, compatible, oui, mais il obscurcit en quelque chose, l'amour. Ceux, en revanche, qui vivent le polyamour qu'évoquait monsieur, qui s'autorisent des aventures, qui s'autorisent mutuellement des aventures, moi, sincèrement, ça ne me choque pas. Je trouve qu'il y a plus important dans la tradition judéo-chrétienne que de réguler nos petits plaisirs érotiques. Et d'ailleurs, je trouve que l'amour est plus important que nos plaisirs érotiques, justement. Et donc, la vraie question, c'est quel type d'histoire d'amour on est capable de vivre. Voilà, la vraie question, c'est pas est-ce que vous êtes fidèle ou pas à votre mari, est-ce que vous désirez ou pas les hommes d'une autre. La vraie question, c'est est-ce que vous aimez vraiment votre mari, est-ce que vous le désirez encore. Est-ce que vous êtes capable d'aimer en dehors de la famille? Voilà. Quel type d'éros, de filia, d'agapé, de quel type d'éros, de filia, agapé êtes-vous capable? Voilà, l'amour est plus important que la morale, que la stricte obéissance à la loi. L'amour est plus important que la sexualité. Mais quand on peut avoir les trois ensemble, on aurait tort de s'en priver. Or, la plupart des couples que nous connaissons, ben voilà, on est fidèle, parce que comme on n'a pas envie d'être partageux, ben on s'impose à toi-même l'exclusivité qu'on attend de l'autre. On ne commet pas l'adultère. Quand on convoite la femme du voisin, on ne la drague pas pour autant, on garde ça pour soi. Et on fait l'amour avec plaisir et avec trouble, avec son ou sa meilleure amie, la personne qui vous connaît le mieux, que vous aimez le plus, que vous connaissez le mieux et qui vous aime le plus. Voilà, ça c'est la vie réel, me semble-t-il, des couples. Je ne suis pas en train d'inventer un amour qui n'existe pas. J'essaie d'être au plus près de notre expérience vraie de l'amour quand il est heureux. Quand il est heureux. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je sois contre la passion. Ordinairement, ça commence par la passion, ça commence par Eros, et c'est vrai que cette intensité-là, c'est formidable. Mais si vous espérez que ça va durer, vous n'avez pas compris ce que c'est. Nietzsche l'écrit quelque part avec son sens de la formule. Beaucoup de brèves folies, voilà ce que vous appelez l'amour. Et à cette brève folie, le mariage met fin par une longue sottise. Oui. Sauf, oui, c'est une longue sottise, parce que vous marquez quoi la sottise? C'est de se marier parce qu'on est amoureux. Ça, c'est idiot. Puisque le mariage va justement supprimer la passion amoureuse. Il ne faut pas se marier parce qu'on est amoureux, il faut se marier parce qu'on s'aime. Et c'est pourquoi les couples d'aujourd'hui qui se marient après 5 ou 10 ans de vie commune sont beaucoup plus près de la vérité de l'amour que ces couples bourgeois du 19e siècle qui se mariaient puceaux, en tout cas vierges, pour la femme, pour l'homme c'était plus rare, qui forcément étaient déçus. Hein, la chanson de Joe Dassin, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Le plus difficile, le plus beau des histoires d'amour, ça commence une fois qu'on n'est plus amoureux. Et donc, dernier mot pour conclure vraiment. Peut-être avez-vous dit, messieurs, lors de la dernière Saint-Valentin, le 14 février dernier, peut-être avez-vous dit à votre compagne, « Ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. » C'était gentil. Non, c'est vrai, c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin. C'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Vous savez, un mensonge, même gentil dans un couple, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'aller savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme, hein, chez la plupart d'entre eux, gentillesse et lâcheté sont tellement proches qu'elles sont en vérité à peu près indiscernables. Il faut bien que quelqu'un leur dise la vérité au moins de temps en temps. Et donc, faites-moi plaisir, messieurs, plutôt non, faites-lui plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez plusieurs mois pour rendre le propos crédible, lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là, vous faites une déclaration d'amour au moins possiblement vraie. Et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant absurdement de manquer de celle qui, d'évidence, ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait ce cadeau bouleversant depuis 15 ou 16 ans de partager votre vie et votre lit. Et puis je vais vous dire, aimer ce qui manque, c'est facile. N'importe quel pauvre est capable d'être en manque. Partez 15 jours, il sera en manque. Pas pour celles qui ont un mari jeune. N'importe quel gamin de 15 ou 16 ans peut tomber amoureux d'une vedette de la chanson qu'il n'a peut-être jamais rencontré. Mais oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Et là encore, une bonne pédagogie de commencer par le plus facile. On tombe amoureux, c'est fastoche. Et de continuer par le plus difficile, qui est d'essayer de vivre à deux, de s'aimer, quand on ne se manque plus, mais quand on se réjouit mutuellement de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Passer de l'amour-action à l'amour... Passer de l'amour-passion à l'amour-action. De l'amour rêvé à l'amour réel. Eh bien, je vous dis, mieux vaut un peu d'amour réel que beaucoup d'amour rêvé. Je vous souhaite une excellente soirée.